Bien-aimé, il n'y a que le cœur de Dieu qui puisse, par son esprit, répondre aux besoins de tout mon cœur. Et c'est pourquoi nous attendons éperdument à lui et à son secours. Ô Dieu, nous réalisons que si nous parlons, ne pouvons le faire que par la force que toi tu fournis. Et nous devons parler, nous, encore aujourd'hui. Nous voulons te demander que ce soit seulement comme oracle de Dieu. Et que les réponses t'attendent des âmes que tu chéris et pour lesquelles ton fils bien-aimé est mort. Lui, être entendu, reçu, et que cette parole transforme et vit pour la gloire du Père, pour l'honneur du Fils, pour la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, dans la dépendance du Seigneur et laissant le Saint-Esprit structurer lui-même nos messages sur les ennemis du chrétien, je me permettrai simplement de vous poser très affectueusement une question. Cet après-midi, hier soir, nous vous avons demandé de lire, si possible, les textes qui nous ont occupés, qui ont été la toile de fond de notre premier message d'hier. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait parmi vous? Vous me direz, cela a été trop court, nous n'avions pas de lumière, je veux bien le croire. Mais mes amis, je voudrais souligner que s'il n'y a pas, après un message, une lecture personnelle, je ne dis pas nécessairement silencieuse, parce que c'est très bien de lire à haute voix les textes qui sont sous nos yeux, parce que ça entre par les oreilles, en même temps que par la vue. Bien, s'il n'y a pas ce moment d'intimité avec le Seigneur, je crains bien que la parole n'ait pas d'accès jusque dans les profondeurs de notre être. C'est une discipline à laquelle nous devrions mettre. Alors, je relirai le texte aujourd'hui. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, vous l'entendrez. Parce que ce n'est pas ce que moi je puis vous dire qui est important. C'est ce que la parole de Dieu vous déclare. Et que vous recevez en ce 2 septembre directement du sanctuaire. Certes, par un canal bien faible, bien misérable, mais qui voudrait simplement laisser passer cet eau de la vie qui régénère nos cœurs. Exode, chapitre 23. Et vous êtes dans la présence de Dieu, pas dans la présence d'un homme. Et je suis le premier avec vous dans cette présence de Dieu. Conscient qu'il est là, et qu'il entend tout ce que je dis, et que j'aurai à répondre de toutes mes paroles devant lui. Donc, comme le disait le Paul, c'est toujours avec crainte et tremblement que nous présentons ce message qui peut sauver les âmes, qui peut aussi fermer une âme. Si nous n'avons pas parlé du Seigneur comme nous devions en parler. Verset 20 du chapitre 23 de l'Exode. Nous savons que le Seigneur parle à Moïse, qui a été employé merveilleusement pour délivrer le peuple d'Israël du joug du Pharaon et de ce pays d'Égypte où il se trouvait dans la servitude. Mais après avoir connu
ses merveilleuses délivrances sur ses grands ennemis. Israël se trouve dans le désert et il y a une crainte dans les cœurs. Car même si on sait qu'il n'y aurait eu que 11 journées pour traverser le désert et arriver au pays de Canaan, il faut qu'il soit conduit dans ces 11 journées. Et vous savez qu'au lieu de mettre 11 journées, ils ont mis combien de temps? 40 ans. Pour quelle raison? À cause de leur infidélité. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole qui leur était donnée. Ils ne l'ont pas cru. Quelque chose qui est. Le voyage pourrait être beaucoup plus court. Mais à cause de nos infidélités, eh bien, souvent, on doit tourner en rond. Alors que le Seigneur aurait voulu nous conduire directement au but. Voici, j'envoie un ange devant toi, dit le Seigneur à Moïse, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. S'il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est de mentir. Et je voudrais que nous en soyons tous conscients. S'il y a une impossibilité pour Dieu, c'est de mentir. Il est impossible que Dieu nous mente. Alors, nous allons prendre Dieu au vent et croire que c'est vrai. Que lui va envoyer son ange devant nous. Que c'est lui qui va préparer le chemin. Et que nous aurons cette victoire sur nos ennemis. Mais, si vous avez écouté hier la prédication de l'Écriture, et si vous avez lu ce texte, vous avez pu vous demander, mais qui est cet ange? Au fond, qui est cet ange qui ira devant Moïse? Tiens-toi sur tes gardes, en sa présence, et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Et le nom, c'est la personne même. Mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Là, il y a tous ces peuples ennemis qui sont mentionnés, les Amoréens, les Hittiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur tête. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays point de femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Et tout à l'heure, on a vu deux fils de sacrificateurs, Nadab et Abihu, qui ont été repensés. Ils n'ont pas pu accomplir le nombre de leurs jours. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert un feu étranger. Et ils n'ont plus pu être des témoins. Et nous avons déjà mentionné cela. Que ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous puissions achever le nombre de nos jours, avoir une vie qui aille jusqu'au bout selon son plan. Mais pour cela, il nous faut veiller et obéir. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Qu'est-ce qui va faire cela? Israël? Non, le Seigneur. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Et je voudrais aussi que là, plusieurs parmi vous puissent recevoir une réponse quand vous dites, oui, mais est-ce que la délivrance, est-ce qu'on l'a une fois pour toutes, est-ce que c'est total, est-ce qu'on ne retombe plus jamais? Écoutez ce que le Seigneur vous enseigne. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Il y a toute une vie qui va se manifester en vous, et vous devez laisser cette vie grandir en vous. Vous possédez entièrement, et c'est ainsi que ces ennemis seront définitivement vaincus. Mais laissez-vous monter, il y a une progression spirituelle. Quand on a reçu le Seigneur, on est d'abord enfant, puis quand on laisse grandir le Seigneur en nous, on devient adolescent en Christ pour atteindre ensuite cette maturité spirituelle dont nous avons dit quelque chose hier. Il y a une progression de la vie chrétienne en nous par la grâce de Dieu. Alors ne nous décourageons pas si nous avons encore des manquements ou des chutes. Ne nous décourageons pas. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Il faut vivre toujours dans ce sentiment de la présence du Seigneur. Et quand on vit dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, nous montre immédiatement si nous sommes dans l'erreur, si nous tolérons en nous quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est une présence très sensible, il est contristé, et nous n'avons plus cette joie que nous avons connue dans les premiers jours de notre conversion, de notre salut. Et alors là, c'est le signal d'alarme. Et que ferons-nous? Nous nous jugerons de notre manquement, de notre faute, et nous nous tournerons vers la face du Seigneur, et qui, dans sa grâce, présentera auprès de son Père son propre sang, en disant au Père, j'avais aussi payé pour ce péché-là. Et la communion est ainsi rétablie, parce qu'il y a eu confession de notre péché. Parce que nous avons reconnu notre infidélité. Nous ne voulons pas nous habituer à retomber toujours dans les mêmes fautes. Nous ne voulons pas nous décourager si nous sommes retombés. Mais ce que nous ferons, c'est que nous irons au Seigneur et que nous lui dirons, tu as dit que tu détruirais les ennemis. Tu as dit que tu serais le plus fort. Eh bien, je compte sur ta parole et je m'abandonne à toi. Réalise en moi tout ton destin, tout ton plan, je te fais confiance, je m'abandonne. Cessez vos luttes vaines, cessez vos vains efforts pour vous dominer vous-même et laissez-vous dominer par le Seigneur qui veut vous donner la victoire. Oui, je les chasserai moi-même, peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Puis il y a les limites du pays qui sont données, et verset 32e, tu ne feras point d'alliance avec eux. Alors ça rejoint le message de mon frère bien-aimé, d'alliance avec eux et avec leur Dieu. Maintenant qu'on connaît nos ennemis, qu'on sait ce qu'ils sont, ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Et nous avons lu encore dans le Deutéronome au chapitre 7, que toutes ces nations, et il en était nommé 7, étaient plus grandes et plus puissantes qu'Israël. Mais que Israël, s'il se confiait au Seigneur, aurait une victoire complète et totale sur tous ses ennemis plus grands et plus puissant qu'eux-mêmes. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que cet après-midi, nous sommes convaincus que nous pouvons encore avoir cette délivrance? Les ennemis du chrétien. Mais je vous ai posé aussi cette question. Êtes-vous réellement chrétien? Est-ce que nous sommes des chrétiens? Je ne voudrais pas mettre le doute dans vos cœurs, de vos cœurs. Mais aujourd'hui, il se fait dans le monde une certaine évangélisation qui n'amène pas les âmes à une nouvelle naissance, à une véritable régénération. Et quand il n'y a pas eu régénération, quand il n'y a pas eu le travail de l'Esprit de Dieu qui convainc réellement de péché, de justice et de jugement, eh bien, s'il n'y a eu qu'émotion, que décision prise dans un moment où l'on était dans une bonne ambiance, où l'on entendait peut-être des belles paroles d'intensité, où l'on était dans le recueillement, ce que le prédicateur avait dit était juste, et au fond, qui ne voudrait pas de la grâce? Qui ne voudrait pas du pardon de tous ses péchés? Alors, s'il suffit pour que tout cela soit réglé, que l'on signe une carte, ou que l'on s'avance, eh bien, nous le ferons au fond. Mais, chers amis, je crois que Dieu peut sauver une multitude de gens, même par cette méthode-là, mais ne nous fions pas dans nos méthodes. Et demandons à Dieu qu'il fasse de nous d'authentiques chrétiens et que les temps devenus, nous puissions d'une manière authentique aussi présenter la parole de Dieu aux âmes sans nous laisser influencer par les moyens et les méthodes qui sont employées par le monde. Parce que c'est là aussi un de nos grands ennemis. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père, n'est point en lui. 1 Jean, chapitre 2, vous connaissez ces versets. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, vient du monde, mais n'est pas du Père. Et ce monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire celui qui se conforme à ce que dit l'Écriture, il est dit que lui demeure éternellement. Et si vous êtes vraiment un authentique chrétien, qu'est-ce qui se sera passé? Vous aurez entendu la prédication de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et parce que la main du Seigneur a été puissante sur vous, vous vous serez laissé saisir par lui, et vous vous serez tourné vers le Seigneur. C'est ça une conversion. Une conversion, c'est un véritable demi-tour. Mais ce demi-tour, c'est un changement de vision, c'est un changement intérieur, c'est un changement de pensée. Par exemple, maintenant, j'ai devant moi le fond de la salle, je pourrais vous le décrire. Mais si je fais une conversion, c'est-à-dire un demi-tour, eh bien, j'ai devant moi un autre tableau. Ma vision change. Et quand il y a réellement conversion, il y a un changement intérieur, un changement de pensée. Et qui a une suite et une influence sur nos paroles. On ne parle plus de la même manière quand on ne pense plus aux mêmes choses. Et ces pensées n'ont pas seulement un prolongement audible par nos paroles, mais un prolongement visible par nos actes. Ce ne sont plus les mêmes actes que nous accomplissons. Il y a un changement. Et voyez-vous, dans les vraies réunions de témoignage, ce ne sont pas les gens convertis qui témoignent d'abord et qui disent « voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenu, voilà comme j'ai changé ». C'est les gens du monde qui se lèvent et qui disent, ces gens sont transformés. Les vraies réunions de témoignage, elles ont lieu quand le monde commence à parler de vie transformée, non pas quand un chrétien vient sur une estrade pour dire, voilà, ce que j'étais, et quelquefois on se fait encore plus noir que ce qu'on était, et on donne un tas de détails sur la vie scandaleuse que l'on menait, c'est ces réunions que j'appelle style post-apurin, ça sent très mauvais, en écoutant tout ce déballage de péché, et ensuite, alors voilà, péché venu, et on est comme des anges. Alors, c'est pas si vrai que cela. On pouvait simplement dire à celui qui a dit, oh, ma vie est transformée. Est-ce que ta femme le pense? Est-ce que tes enfants le pensent? Est-ce que ton chef de bureau le pense? Voilà. C'est le monde qui doit se rendre compte qu'il y a un changement. Et au lieu que soit à vous, Dieu allait toujours pour parler du Seigneur et d'avoir toujours le nom du Seigneur dans la bouche, sinon en décollant sur votre photo, et quitte à ce que vous brûliez quand même les feux rouges, mais vous avez un collant hein, sur votre photo, c'est parfois à rencontrer son Dieu derrière, ou bien, et c'est comme ça, mais c'est pour les autres, hein. Ou bien, le Seigneur t'aime comme tu es, et puis vous l'avez écrasé, et tu dis, il a juste encore un regard. Voilà, le Seigneur même, comme je suis. Imbéciles que nous sommes. Nous-mêmes. Nous ne sommes pas conséquents. Alors, si nous sommes vraiment dans la main de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens verront ce changement. Et c'est eux qui nous rendront la raison de l'espérance qui est en nous. Et alors nous serons toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous. Et nous pourrons présenter Jésus, non pas comme la dernière chance de salut des autres, mais Jésus comme étant devenu notre vie. Et le monde s'apercevra qu'il vit en nous, que nous sommes ces temples dont a parlé mon frère, qui sont réellement habités par le Nous ne sommes pas arrivés à la perfection, nous le savons bien, et ne serait-ce que par nos paroles, parce que celui qui saurait tenir sa langue, bien ce serait un homme parfait, mais comme chrétien, que de fois nous avons ce péché des lèvres. C'est une des premières choses qu'Ésaïe le prophète demande à Dieu, ou confesse devant Dieu, quand il a la vision de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il ressent? Que ses lèvres sont vaincues. Je suis un homme aux lèvres vaincues. Et qui va purifier ses lèvres? C'est le Seigneur. Mais il y a des paroles, il y a des propos qui devraient disparaître de la bouche de personnes qui se disent réellement au Seigneur. Et pourtant, quand on n'a pas des écouteurs dans les oreilles et une cassette à entendre, et qu'on entend encore un peu certaines conversations, on se rend bien compte que il y a des paroles qui sont bien vaines, des paroles folles qui s'éventrent, auxquelles nous nous laissons aller, des jeux de mots à double sens. Et tout cela détruit notre vie intérieure, notre vie spirituelle, et nous amène à la chute. Parce que Satan, oui, est un ennemi vaincu, mais il est toujours là pour essayer de détruire votre témoignage. Alors, vous êtes conscient de cela, mais le Seigneur est là, et vous êtes conscient de sa présence. Mais, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait que vraiment c'est ange? Donc, il est question ici, et le Seigneur lui-même. Est-ce que vous vous êtes posé la question, qui est cet ange? Qu'il va envoyer? Eh bien, Moïse, lui, s'est posé la question. Alors, j'arrive au chapitre 33, du livre de l'Exode, verset 12e. Moïse dit à l'Éternel, chapitre 33 du Code, vous allez relire tout cela pour vous-même, parce que je crois davantage à l'après-conférence qu'à la conférence elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ce que le Saint-Esprit vous rappellera de la parole de Dieu quand vous serez chez vous, dans votre contexte, Et c'est cette parole qui va enterrer. Oui, ma conscience est perdue. Et dans l'action de cette parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui sera votre mémoire et qui vous rappellera tout ce dont vous comptez ne plus vous souvenir. Voyez, il dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Voilà la vraie évangélisation. C'est que les assemblées, nos groupes évangéliques, soient vraiment distingués de tous les peuples qui sont sur la terre. Qu'on voit autre chose dans nos milieux que ce qu'on voit dans le monde. Parce qu'alors, là, ça rejoint l'adultère dont mon frère vous a parlé. Il faut être distingué de tous les peuples de la terre. Si le Seigneur marche avec nous, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut faire ça dans votre vie? Malgré que vous êtes encore bien dans le monde, et que vous savez bien qu'il y a des convoitises dans le monde. Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom. Et moi, il dit, alors, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom d'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Est-ce que vous le croyez? Qu'il vous fait grâce à vous? Qu'il vous fait miséricorde à vous? Quel que soit votre état aujourd'hui, c'est lui qui vous le dit. Alors retenez sa grâce. Louez-le pour sa miséricorde. Vous êtes au bénéfice de sa miséricorde aujourd'hui. L'Éternel dit, mais tu ne pourras pas avoir ma face, car l'homme ne peut pas avoir ma face et vivre. Parce que, je vous dis, c'est bien ça qu'on voudrait. Donne-moi, Seigneur, alors, une révélation tout à fait particulière, personnelle, de toi, que ce soit quelque chose de tangible. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Il se tiendra sur le rocher. Et qu'est-ce que c'est que le rocher pour nous? C'est Christ, c'est la parole de Dieu. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Est-ce que vous voulez vous laisser saisir? Ou que Dieu vous mette lui-même dans le creux du rocher? Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Oh, croyez-le, il peut se produire quelque chose de merveilleux. Votre cœur aujourd'hui s'ouvre. La gloire du Seigneur passera devant vous, et quand vous aurez vu quelque chose de cette gloire, le monde qui vous attire encore tant ne vous donnera plus rien. Vous ferez l'expérience de Saint Paul qui, après des années de vie avec le Seigneur, nous dit, j'estime maintenant toutes choses comme de la boue, comme des ordures, afin de gagner Christ, de le connaître lui. Mais Paul, est-ce qu'il ne le connaît pas depuis longtemps? Est-ce qu'il n'est pas le fondateur de plusieurs églises, de plusieurs communautés? Est-ce qu'il n'a pas amené à la connaissance de Dieu des multitudes? Je veux le connaître lui, la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Pour pouvoir entrer dans quoi? Dans la communion de ses souffrances. Et voyez-vous, cet après-midi, oui, mon temps est aussi limité, eh bien, je voudrais que le Saint-Esprit vous montre que un des caractères chrétiens, c'est d'accepter la dimension de la souffrance. Mais pour pouvoir souffrir avec joie, en traversant ce monde comme chrétien, il nous faut la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi il dit qu'on veut connaître lui et la puissance de sa résurrection. Parce que pour avoir une vie aussi authentiquement chrétienne, il faudra beaucoup souffrir. Et pour pouvoir souffrir ce qu'un chrétien doit souffrir, il faut une autre puissance que celle que l'on croit avoir quand on se trouve en forme, celle de notre chair, qui n'est qu'une vanité, qui n'est qu'une fumée, et nous faut la puissance de sa résurrection. Et cette puissance de la résurrection, cette puissance à sortir le Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui est mise à votre disposition pour vous permettre de tout souffrir dans ce monde en témoin du Seigneur et de lui rester fidèle, même sous la torture, de lui rester fidèle jusqu'à la mort. Mais peut-être que ce n'est pas la torture, peut-être que ce n'est pas la prison, et qui sont les plus grandes épreuves. C'est le quotidien, la vie en liberté, la vie quand on est encore en bonne santé, qu'on a un corps qui n'est pas de bois ni de marbre. Il y en a qui ont un corps de marbre, ou qui croient avoir un corps de marbre. L'hiver, attention. Votre corps, il peut être le temple de Saint-Esprit, mais ne vous fidez pas à la force de la chair. Regardez au Seigneur, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, qui peut maintenant vous maintenir debout pour la traversée du désert et vous mettre au bénéfice de toutes ces bénédictions dont nous avons lu quelque chose et qui pourraient correspondre aux quatre ennemis que nous vous avons mentionnés et sur lesquels nous reviendrons encore. Satan, le tentateur, qui, dans un moment où Jésus a eu faim, a essayé de le faire sortir de la dépendance de son père pour qu'il envoie sa puissance pour se servir lui-même. Si tu es le fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Il a refusé la tentation de Satan. Vous pouvez en être vainqueur si vous laissez le Christ parler en vous. Il refuse de sortir de la dépendance de son père et d'employer de la puissance pour lui-même, pour se soustraire à la souffrance. Il connaîtra la souffrance dans un corps de chair semblable à celle de péché, quoi qu'elle soit sans péché, la sienne, mais il acceptera de souffrir. Eh bien, nous aussi, nous devons, comme chrétiens, accepter cette dimension de la souffrance. Je sais être dans l'abondance, dit Saint-Paul, mais j'ai appris aussi à être dans le besoin. J'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve. C'est une éducation que le Seigneur fait en chacun de nous. Il y a des moments où nous pouvons connaître l'abondance, alors nous rendons grâce. Et nous avons cette joie de donner, parce qu'il y a plus de joie à donner. Mais il y a des moments aussi de disette, où nous dirons au Seigneur, viens de moi au moins ce qui est nécessaire. Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous donnera le nécessaire? Mais il faut savoir attendre les derniers temps. Parce qu'alors, quand c'est le dernier quart d'heure, les anges viennent pour le servir. Mais c'est ces derniers quart d'heure, et c'est le plus difficile, où on risque de dire, mais il faut faire quelque chose. Il faut quand même suivre le texte biblique qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dans quel passage est-ce que vous trouvez là? J'ai déjà pensé que c'était peut-être Sarah qui avait dit ça à ce pauvre Abraham. Non, mais c'est pas dit. Mais ça allait tellement long, la venue de ce fils, que pour finir, il dit, mais moi, je suis premier, je trouve bien aider le bon Dieu. Alors, c'est Abraham. Tu vois ma petite servante, la vérité, là, du pharaon. Elle est mignonne, c'est ma servante à moi. Mais elle peut servir. Alors, tu vois, comme je suis bonne, moi, je peux l'apprendre. Puis, le fils, c'est Laura. Comme c'est pas un miséricorde, ça sera mon fils. Elle accouchera tous les deux. Et ce sera notre fils. On aura un des deux. Et c'est comme ça qu'est né. Attention, attention, non. Et toi, le ciel t'aidera, vous entendez si souvent dans le langage religieux, mais pas dans le texte biblique. Je m'attends au Seigneur, je veux la délivrance du Seigneur. Je n'accepterai pas une autre délivrance ou les moyens du monde. Nous restons dans cette certitude que le Seigneur nous aidera. Nous savons que nous sommes entourés par toutes les combattants possibles. Alors il y a l'ennemi de tentation. Il y a le monde avec ses combattants. Ce monde qui a été pourtant créé bon et bon, qui a Dieu pour auteur dans le sens cosmologique du terme monde. Le monde est quelque chose de beau et le monde est quelque chose de beau. Mais il y a un autre sens aussi au moment, je ne peux pas m'allonger là-dessus, il y a un sens historique où le monde ne définit pas simplement la création de Dieu, les œuvres de Dieu, ou la scène sur laquelle nous avons à rendre témoignage, mais le monde est pris aussi dans un sens historique, et désigne les hommes, c'est ainsi qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, l'humanité. Il a donné son fils unique afin que tout homme croit en lui, ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, quand l'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde, on est mis de la contradiction dans la Bible. Puisque Dieu l'a tant aimé le monde, pourquoi est-ce que nous ne l'aimerions pas? N'aimez pas le monde. Ah, c'est tout un autre sens. Le monde a aussi un sens moral et religieux, et il désigne ce système, cet arrangement des choses sur la terre, et qui a commencé à la chute de l'homme, quand Satan est devenu le prince de ce monde, a pris le péché d'Adam. Adam qui aurait dû être le chef de ce monde, eh bien, il est devenu l'esclave de Satan. Car vouloir l'indépendance, mes sœurs, je vous le dis aussi, si vous voulez une indépendance hors du Seigneur, vous arriverez au pire des esclaves. Voyez-le. Même si vous me publiez à la sortie, on est bien égal. Ça m'est bien égal, je ne suis pas ici pour qu'on me le redemande une nouvelle fois. Je ne suis pas ici pour qu'on me le redemande dans d'autres milieux. Je suis ici pour vous présenter la parole de Dieu. Et en quelques instants encore, je voudrais vous dire dans quelle dépendance vous devez vivre de la part du Seigneur pour pouvoir triompher du monde. Il faut d'abord s'accepter soi-même. Est-ce que vous devez accepter vous-même? Je parle pas seulement au Père, hein. Je parle aussi au Père, parce que quand on parle de mondanité, on pense toujours au Père. À leur costume, à leurs vêtements, hein, à la longueur de leur robe, hein, tout ça, à cette mode comme ça maintenant. C'est la mode, hein. Je vais pas vous en faire la démonstration, parce que je retomberai dans ce que j'ai condamné tout à l'heure. Alors, attention, mais attention, la mode, elle part. Alors, est-ce que c'est nécessaire que vous, parce que certaines femmes seraient comme ça, vous fassiez la même chose? Est-ce que vous n'allez pas vous demander, mais ça, est-ce que c'est du père ou est-ce que du monde? Quand on nous dit, oui, mais c'est difficile, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Qu'est-ce que c'est qu'on doit pas aimer? L'un, un secret bien simple. Vous vous posez la question, est-ce que c'est du père? Du père qu'elle est? Du père de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien, c'est du monde. Est-ce que c'est du Père? Si c'est pas du Père, c'est du monde. Alors, je n'ai plus rien à faire à ce monde. Je suis mort. J'ai un autre témoignage à rendre dans ce monde. On doit voir autre chose dans ma manière de vivre que ce qu'on peut voir chez les femmes du monde et chez les hommes du monde. S'accepter soi-même. Oui, mais moi, j'aurais voulu avoir des cheveux, l'autre couleur de cheveux. Ah là, c'est bien. Allez-y, changez de coiffure, changez tant que vous voudrez, avec les quatre prénoms. Le monde, c'est comme ça.
Alors votre mari aura une femme de 4 saisons. C'est la même. Il aura la même, hein, parce qu'il est chrétien. C'est la même. Et moi, je fais pour garder mon mari, avoir une femme de 4 saisons.
C'est pas tant de choses.
On a la vie.
Il y en a qui trouvent pas. C'est un moyen de garder son mari. Mais on ne trouve pas.
Et la question toujours pour nous, c'est, est-ce que je me suis accepté? Qu'est-ce qui a fait mes cheveux? C'est-à-dire, ben, c'est pas pour vous dire que je n'ai pas bien me coiffer. Je n'ai rien contre ça. Et je n'ai rien non plus contre le coiffeur. Et je ne vous dis pas de me aller chez le coiffeur. Mais, allez-y avec le Seigneur. Si le Seigneur vous parle aussi sur la chaise du coiffeur, vous me direz, ben, alors ça sera impossible.
Et ceci est dit avec lui, son nom est lui.
Alors, qu'est-ce que c'est que notre christianisme? On n'est pas chrétien de nature, on le devient, c'est l'autre verset que je vous ai cité hier, qui va bientôt me persuader de devenir chrétien. On est devenu chrétien, et alors il y a quelque chose qui change. Mais maintenant que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou comme des gens s'ingérant dans les affaires d'autrui, ou comme voleurs, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est pas de honte, qu'on vous dit, mais toi, tu mets encore cette honte. Tu n'as pas changé de mode. Et vous savez très bien que la mode va changer. De sorte que si vous êtes vêtu, comme le dit l'Écriture, avec pudeur et modestie, pudeur c'est passé, modestie c'est pas trop, vous serez toujours dans la ligne. Et vous serez toujours belle et distinguée. Parce qu'une femme chrétienne, c'est une femme qui a la beauté du cœur. Je voudrais avoir du temps pour vous parler de Sarah. La vieille Sarah, son mari, il l'a trouvée belle, tellement belle, qu'il l'a trouvée pratique sa soeur quand il avait son corps. Parce qu'il avait peur qu'on la lui vole le record. Vous avez peur qu'on vous vole votre vieille? Rien, lui, il l'a jamais appelée sa vieille. Elle était toujours belle, et quand Sarah racontait l'histoire d'Abraham à Isaac, elle lui, et quand Abraham a pu raconter à Isaac sur le chemin de Moria, l'histoire de sa vieille mère Sarah, il pouvait lui parler de sa mère. Avec ce respect, avec cette estime, ce que nous devrions retrouver dans nos foyers chrétiens. Mais est-ce que vous vous êtes accepté? Vous dites, mais moi j'ai pas accepté la couleur de mes yeux. Ou bien j'ai pas accepté mon nez. Ben oui, il y a la chirurgie esthétique. Alors allez-y, courez, et demandez à un médicaire de vous payer. Il le veut bien, alors vous changez de nom. Mais acceptez-vous tel que vous êtes. Mais vous direz, mais moi je suis trop petit. Alors j'achète une femme. Et forcément, vous devez être dans le chapitre 3 d'Ésaïe. Elles font des petits pas. Elles font des petits pas. Elles sont soumises au talon. Et après, vous devrez aller trouver ma femme. Vous avez toutes sortes d'articulations. Ma femme, elle est enceinte. Vous aurez de l'arthrite, vous aurez de tout ça. C'est le monde qui vous amène vos maladies, bien souvent. Vous dites, moi, je n'ai pas accepté la couleur de la peau. Je voudrais être beaucoup plus brune. Vous voyez, on peut voir. Nous voulons, Seigneur, c'est la beauté de notre vie. C'est la couleur de mes yeux. Ou bien, j'ai pas accepté mon nez. Ben oui, il y a la chirurgie esthétique. Alors, allez-y, courez. Et demandez à un médicaire de vous payer. Il le veut bien. Alors, vous changez de nez. Mais acceptez-vous, tel que vous êtes. Mais vous direz, mais moi, je suis trop petit. Alors, j'achète des hauts calibres. Et forcément, vous devez être dans le chapitre 3, d'Ésaïe. Elles font des petits pas. Elles sont tenues au talon. Et après, vous devrez aller trouver ma femme. Vous avez toutes sortes d'articulations. Ma femme, elle est enceinte. Vous aurez de l'arthrite, vous aurez d'autres choses. C'est le monde qui vous amène vos maladies, bien souvent. Vous dites, mais moi, je n'ai pas accepté la couleur de la peau. Je vais être beaucoup plus brune. Vous devriez être moi. Nous voulons, Seigneur, de la beauté de nos sœurs noires. Mais elles sont noires, elles se sont acceptées, nos sœurs noires. Et vous, sœurs blanches,
qu'il vous commande. Est-ce que vous gardez votre mari? Que vous faites la Jézabel? Retrain de la façade, ravalement de la façade. Hein? Une couche, deux couches, trois couches. Puis alors toujours ça. Oui, vous avez peut-être aussi le Nouveau Testament dans la poche, hein? En même temps, là, tout grigné. Mais si vous voulez continuer, mais ne me dites pas que vous êtes arrivé. Mais je vous dis que le monde, encore, c'est pas très doux. Et vous me direz, mais est-ce que c'est permis d'aller danser? C'est avec joie qu'il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des lieux où l'on ne va plus parce qu'on sait que tout ça, c'est un piège. J'ai connu une femme qui était la grand-mère d'une de mes bonnes amies, et qui a écrit beaucoup de cantiques que même vous connaissez et que vous chantez. Eh bien, elle s'est convertie, elle, dans un bal. Un livre que j'ai corrigé a été écrit cette nuit-là, c'est pour les dieux. C'était dans un bal. C'était Alice Anderson. Cette femme qui, dans un bal mondain à Genève, s'est aperçue tout à coup de la vanité. Monde, elle en a eu la nausée. C'est elle qui a travaillé à la fondation de la Ligue de la Genève pour la lecture de la Bible, ensuite mon pays natal. Et je l'ai connue, nous avons prié ensemble. Elle a été une de mes premières amies de mon enfance chrétienne. Et elle m'a aidé aussi dans mon témoignage. Les sœurs, elles ont un ministère. Il y a vraiment des mères en Israël. Et nous bénissons Dieu pour ce témoignage. Et vous savez, c'était pas la première ligne. Elle était distinguée. Elle avait cette distinction du Christ. Cette distinction du cœur. Eh bien, moi, ce que je convoite, parce qu'il y a une bonne convoitise, ce que je convoite pour le Québec, ce que je désire avant, c'est qu'il se lève dans nos communautés des femmes vraiment régénérées et qui ont compris cela pour devenir des piliers dans nos assemblées, des modèles pour les plus jeunes, pour les jeunes sœurs et pour leurs enfants. Parce qu'elles se sont d'abord acceptées. Et quand on est accepté, parce qu'on est la créature de Dieu, celui qui nous a fait. Alors Seigneur, arrange-toi avec mon histoire, avec mon nez, avec ma physionomie. C'est toi qui m'as fait. Alors je m'accepte. Et une fois qu'on s'est accepté, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'il nous demande. Renonce à toi. Quel bonheur. Quel privilège. Tu n'as pas besoin d'aller chez le médecin. Renonce à toi-même. Je peux en avoir fini avec moi. Parce que quand j'ai profité de mon nez, de la couleur de mes cheveux, de la hauteur de mes pieds, etc. Eh bien, c'est toujours de moi. Je suis toujours, je me regarde toujours le nombril. Et ça ne s'améliore pas. Mais, et quand maintenant je renonce à moi, je n'ai plus les yeux sur moi, mais les yeux sur lui. Alors je le regarde lui. Et en le regardant lui, qu'est-ce qu'il se dit? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes délivrés de toutes ces séductions du monde. Nous en parlerons encore dans la soirée, pour que vous puissiez bien comprendre. Mais je pense que si, une fois que nous avons compris ce qu'est ce vrai renoncement, si encore une fois ne sont pas le sacrifice, on ne dit pas, j'ai sacrifié cela pour toi, Seigneur. Mais c'est une jour qu'on pouvait plus faire autrement. Et tu me sens tellement heureux que ce soit lui qui soit mon sang. Le bonheur du vrai chrétien, c'est d'avoir changé de sang. Avant, j'étais au sang. Maintenant, c'est lui que je suis. Et alors, pour que mes membres, parce que j'en ai encore, que mes membres soient utilisés, parce que j'en fais pourri, hein, je ne veux pas ça, livrez-vous vous-même. Acceptez-vous, renoncez, et puis ensuite, livrez-vous. Les membres que nous employons avant pour le péché, nous les livrons à Dieu, et c'est lui qui va les employer, il regardera par nos yeux, il écoutera par nos oreilles, il parlera par notre langue, il servira par nos mains, il se déplacera par nos pieds, il aimera par nos cœurs. Parce que quand Dieu a voulu se montrer au monde, il lui a fallu un corps. Maintenant qu'il est dans la gloire, qu'est glorieux, il lui faut pour se manifester au monde un corps. Ce n'est pas seulement le christianisme de l'âme, ou de l'esprit, même, il faut le christianisme du corps. Livrez vos corps à Dieu, comme d'entre les morts, étant fait vivant, étant vivifié par le Seigneur. Alors, vous connaîtrez non seulement la délivrance de l'ennemi, le tentateur, vous connaîtrez la délivrance des convoitises du monde, et nous pouvons nous allonger à l'infini de ces choses, parce que nous voulons être pratiques. Et il y a bien des maux, je dirais même des maladies, celle qui veut tellement se brunir pour changer de couleur, et qui prend trop de coups de soleil et qui arrive. La maladie. Comme aussi, si vous continuez à fumer, malgré tout ce qu'on a pu vous dire, eh bien, fumez encore. Vous ne voulez pas aller au pas vers la mort. Vous voulez y aller par bon. Eh bien, bondissez vers la mort. Bondissez. Vous aurez votre chance. Et puis alors, continuez aussi de boire. Et après, dites, Seigneur, délivre-moi de cette cirrhose une fois. Délivre-moi. Pourquoi c'est qui t'aime? Il y a des que nous ne pouvons plus connaître comme chrétien. Il peut vous libérer de toutes ces passions dans le manger, dans le boire. Quoi que vous fassiez, c'est tout à la gloire de Dieu en rendant grâce au Père. Eh bien, c'est ce que nous demandons de tout notre cœur et de toute notre âme. Que le Seigneur continue lui-même à nous parler et nous verrons quelle fécondité spirituelle il pourra nous donner et aussi quelle longévité il vous donnera. Vous pourrez finir vos jours et non pas être retranché à la moitié de vos jours. Et si j'ai dit ce matin, à la table du Seigneur, je voudrais avoir été bien compris, qu'il se passait réellement quelque chose. Il est dit que parce que l'on prend la scène d'une façon légère, on porte un jugement contre nous-mêmes, hein, et que plusieurs sont malades et morts parmi nous. Ce n'était pas sur ce jugement que je voulais insister, mais c'était pour insister sur la bénédiction qu'il y a en prenant la scène, parce qu'il y a un renouvellement spirituel, psychique et physique qui peut être opéré quand on communie réellement au corps et au sang du Seigneur. Par-delà ces éléments, nous avons la présence réelle du Seigneur qui a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Et c'est la présence réelle? Bien sûr, un verset comme ça, comme on dit, c'est la présence réelle. Je suis là au milieu de mon nom est en lui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te supplier de nous conduire par ton esprit, de prolonger toi-même les lignes de ce message, afin qu'il touche réellement nos cœurs, qu'il nous libère et qu'il nous apporte toute cette joie qu'avait Saint Paul quand il a eu cette révélation intérieure du Christ dans la gloire, qui avait passé à travers ce monde et qui avait connu toutes les convoitises de la terre, qui avait connu toute la puissance de Satan, mais qui avait pu dire non, mais qui avait accepté cette dimension de la souffrance pour rester dans la dépendance de son Père. Le disciple n'est pas plus que le maître. Donne-nous, Seigneur Jésus, de ne pas être seulement des gens qui pensent que le salut, c'est pour ne pas aller en enfer, que c'est pour mourir en paix, mais que, en attendant, on peut vivre notre vie. Que nous sommes libérés par Jésus-Christ pour faire n'importe quoi. Donne-nous de comprendre que la liberté, c'est de pouvoir faire autrement que seulement. C'est de ne pas être obligé de faire comme tout le monde. Et de pouvoir supporter ses opprobres avec joie. Si le monde trouve étrange que nous ne marchions pas selon ses principes et que nous restions cette vierge pure, qui a dit son oui à son époux céleste et qui se garde et qui est gardé pur pour les noces de la vie. C'est la prière que nous faisons monter devant toi en te demandant ta bénédiction, la seule qui enrichit et à laquelle tu n'ajoutes aucun chagrin. Que nos conversations maintenant soient orientées vers toi et que même dans nos jeux, nous puissions penser à toi et que nous soyons dans la joie à toi.
toutes les heures de cette journée, même si nous passons par des moments difficiles, sachant que tu as la victoire sur nous si nous nous laissons faire par toi, pour la gloire du Père au nom du Fils et par cette toute-puissance du Saint-Esprit. Amen.